vous répète qu'il fait moins 9 et que la nuit sera fraîche. Demain, une journée ensoleillée avec environ moins 10 degrés. Une belle journée pour le Père Noël. J'ai un directeur d'école anciennement et un spécialiste de l'éducation au bout du fil. Éric Lantier est là pour sa chronique et j'ai envie de commencer ça en lui demandant, je sais pas si tu l'as déjà fait, l'avis sur le croire au Père Noël ou non. Bonjour Éric. Comment ça va?
Ça va bien.
T'étais pas prêt pour celle-là, hein? Ça n'en est pas parlé. En plus, on vient de se parler des sujets hors d'onde et je t'ai caché ça, moi. Mais on a fait un petit moment là-dessus à quelques instants. Puis moi, j'ai conclu ça. Moi, j'ai décidé que c'était à partir de 3 ans, 4 ans, commence à être vieux pour croire au Père Noël. Je suis bien dans le champ? Oui?
Il y a des enfants, non, c'est parce qu'il y a des enfants qui ont peur du Père Noël. Moi, j'en ai vu des enfants que les parents ont essayé de le mettre sur ses cuisses puis sont partis à pleurer.
Classique.
Et ça dépend de l'âge, ça dépend comment ils sont initiés, ça dépend s'ils l'ont vu dans d'autres contextes. Il y a bien des facteurs là-dessus, mais je pense que c'est le Père Noël, c'est un personnage et puis qui fascine les enfants parce qu'il apporte des cadeaux.
C'est ça. Mais le fantaisisme là-dedans, la magie, faire croire à un enfant de 7-8 ans, ouais, encore, que il y a de la magie dans la vie, ouais, on peut-tu s'entendre que d'y reprocher quand il va être rendu à 15 ans puis qu'il pense que les affaires vont aller tout seul, la pensée, ouais, magique, c'est pas cohérent nécessairement?
Non, ben moi j'ai... Mes enfants, je leur ai pas fait croire qu'ils existaient, mais quand ils m'ont posé la question, est-ce que c'est vrai qu'ils existent pas, je leur ai dit la vérité. J'étais transparent avec eux autres, dire ben c'est un moment de Noël qui est spécial parce que il incarne justement la bonté, il représente Saint-Nicolas. Je leur ai expliqué le contexte.
Bon.
Ça a pas pété leur ballon, mais c'est juste OK, il y a quelqu'un qui me dit la vérité.
Ça fait bien. Et voilà. Et bon, c'est pas millénaire cette histoire-là, tu sais. On brise pas une tradition si grande que ça en disant à un enfant, mais non, c'est une espèce de légende. On ressasse ça pour avoir du fun dans le temps des fêtes, mais prends pas ça trop au sérieux. Ça brise c'est rien. Mais il y a peut-être des gens qui, par peur, se sont abstenus, puis ça a fait probablement une génération un peu enfant roi qui, parce que dans votre génération, mettons 45 ans et plus, c'était pas mal moins présent cette histoire-là de Père Noël, et il y avait des sentiments du devoir un peu plus prononcés, je sais pas, mais bon, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'on a des problèmes en éducation au Québec actuellement, particulièrement chez les jeunes garçons. Mais là, il y a de quoi de généraliser qui est les parcours réguliers. On les emprunte de moins en moins. On à la fin des études secondaires, on va utiliser de plus en plus la fameuse école aux adultes. Alors quand on rentre au cégep, la formation est pas nécessairement la même que ça a déjà été. Il y a des conséquences à ça. On voulait élaborer ensemble là-dessus.
Oui, ben c'est suite à un article qui a été publié sur le Journal de Québec. Et il y a un chercheur avec son équipe qui ont quand même fait un travail assez extraordinaire. Ils ont analysé une cohorte de 22 500 élèves sur une période de 10 ans. C'est pas rien, ça.
Tabarnouche, ouais. Beau petit échantillon.
Ouais, petit. Ouais. Ouais, c'est pas mal, parce que déjà avec 1 500, c'est intéressant.
Ben oui.
22 500, c'est beaucoup. 36% des élèves des classes régulières, des écoles publiques, ont poursuivi leur étude au cégep, mais 75% de ceux qui étaient inscrits dans des programmes particuliers ou dans des écoles privées, eux autres, ont envoyé une inscription au cégep.
Okay.
Moi, ce que je trouve ahurissant dans tout ça, c'est l'analyse des chercheurs, c'est, ben là, l'école privée pose un problème. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils disent après? Ils vont dire après, mais il faut pas abolir le système privé parce que les gens vont retourner à l'école publique puis vont rechercher à reproduire l'école privée dans le système public.
Autrement dit, nivelons par le bas, sinon c'est plus gérable.
Exactement. Mais moi, je me réjouissais d'une chose, c'est que ça confirme ce que je répète à chaque émission quasiment, que ça nous prend un système d'école à projet particulier, qu'elle soit publique ou privée. On est dans l'ère où est-ce que les écoles doivent se spécialiser. On est dans une ère où est-ce que la technologie nous pousse à se spécialiser. On n'a pas le choix d'entrer là-dedans.
Ben. Je parlais de codage tantôt, non, ben plutôt de programmation pour des jeux vidéo. Ça, c'est ce genre de job qu'on veut pas promouvoir. On aime pas mal mieux ça qu'être dans des mines ou, je sais pas moi, bûcherons. C'est plus valorisant, c'est meilleur pour plein de choses. C'est vers là qu'il faut aller. Mais bon, pour ce qui est des parcours particuliers, tu me dis que c'est bon ou c'est mauvais finalement qu'on ait une panoplie de voies différentes à suivre avant le cégep? Le but, c'est pas de contenter nécessairement les directeurs de cégep et les profs de cégep?
Non, ben c'est parce que, écoute, on apprend par motivation. Hein? C'est la curiosité qui nous pousse à apprendre. Alors, si on est stimulé en fonction de nos intérêts, mais qu'en fonction de ça, on est bien formé, et on est bien formé en fonction de nos intérêts, puis, justement, on se sert la motivation pour développer, par exemple, un intérêt pour la langue, parce que tu en as besoin pour ton travail. Mais à ce moment-là, les gens qui sont plus compétents, on va leur en donner plus, on va leur donner une vision. Alors, si on spécialise dans des catégories de gens, d'individus, puis maintenant avec la science, avec la technologie, on peut arriver avec des tests très pointus pour dire, ah, c'est clair, cette personne-là se démarque là-dessus. Et ça devient facile de sélectionner. Maintenant, c'est pas de discriminer en fonction de dire, ben moi, je t'aime plus que l'autre. Mm-hmm. C'est comme quelqu'un qui est bon au hockey. Ben, un joueur de la Ligue nationale, ça ne tentera pas de faire partie d'une équipe midget.
C'est ça.
Alors, c'est juste normal. Alors, si la personne n'est pas assez bonne pour faire la Ligue nationale, ben peut-être qu'il faudrait qu'elle se tourne vers le baseball, le football, ou peut-être d'autres choses, peut-être la peinture.
Ben oui.
Fait que c'est pas de dire, ben, t'es pas bon si tu vas pas à telle école, ou t'es moins bon, t'es meilleur. Non, c'est d'y aller avec les intérêts, les aptitudes. Et c'est là qu'on va développer des écoles qui vont performer avec des élèves performants.
Ça fait longtemps que ça se dit au Québec. Je me rappelle du temps de Mario Dumont à l'ADQ, on mentionnait que ça prend une adaptation comme ça plus vers l'élève. Et ça s'est pas produit parce que souvent on va mettre devant les yeux des gens qui demandent ça des choses genre. Oui, mais les connaissances générales, après ça va être négligé pour certains. Tu peux pas tout amener dans le bloc en même temps que leur spécialisation. Faudrait élaguer. Oui, peut-être élaguer, mais faut choisir des priorités dans un espèce de tronc commun. Et je t'amène sur notre deuxième sujet avec ça. C'est l'orthographe. C'est absolument négligé ici. Au Québec, je considère, pour avoir à côtoyer énormément de gens qui doivent écrire là pour la station ici, très peu maintenant ont un français que je qualifierais de bon à supérieur. C'est souvent moyen, faible, très faible. Personnellement, oui, ça me sert de jauge parce que ça exprime une capacité à la rigueur. Maintenant, il y en a qui sont très capables à la rigueur, qui ont passé à côté dans leur parcours scolaire de pouvoir monter au niveau bon ou supérieur. Et là, c'est là qu'on doit travailler. Comment on fait pour donner une base à tout le monde, mais aussi ceux qui ont des aptitudes ou potentiels supérieurs, qu'on s'assure qu'ils passent pas à côté d'avoir un orthographe de haute qualité.
Oui, ben exactement, puis tu le dis parce que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un article qui a été publié sur la plateforme du journal Le Figaro qui s'intitule « On ne fait pas confiance à un employé qui fait des fautes d'orthographe ».
Bon, c'est un peu gros.
L'argument qui est souligné, c'est que justement, quelqu'un par exemple qui a un moins beau CV mais qui a aucune faute va être priorisé par les employeurs.
Ben oui.
Parce que ça démontre exactement de la rigueur, de l'attention, la personne se revise, ça veut dire qu'elle est davantage motivée à obtenir l'emploi. C'est ça les déductions que font les employeurs. Alors, je pense que c'est important d'avoir, premièrement, des enseignants qui enseignent le français, qui ont une passion pour la langue, pas prendre un prof d'éducation physique pour compléter sa tâche, pour dire, toi, tu vas enseigner le français cette année. Ah, ça me tente pas, je n'ai pas le choix, j'ai un condo à payer.
Puis là, je vais aller réviser mes règles de français, je ne les sais pas moi-même, parce que les tests de français, on peut les faire tant qu'on n'a pas la note de passage pour être prof. Hein? Fait que, y a des petites lacunes dans tout ça.
Et aussi, je crois que les gens de médias, les artistes, tout ça, on a, je pense, quelque chose d'important à communiquer, c'est un intérêt et un goût pour la langue française. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un accent français, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir des expressions québécoises parce qu'on fait partie du Québec, mais de démontrer qu'on l'aime, notre langue, de démontrer que c'est quelque chose de précieux, de démontrer que l'affichage en anglais, ça n'a pas sa place au Québec, spécialement pas à l'extérieur. Et je pense que c'est tout relié à une fierté. On n'est pas tellement fiers de notre langue parce qu'on est entouré d'anglophones partout, en Amérique du Nord, d'hispanophones en Amérique du Sud. Puis c'est comme si on n'a pas pris au sérieux qu'on a notre place. Et je pense que là, il y a un travail à faire auprès des leaders, auprès des gens qui sont visibles, quoi.
Ou bien on descend les standards, parce que c'est vrai qu'il y a des... Tu sais, le français est compliqué des fois un peu à outrance.
Ah, tout à fait.
On va...
J'écris ton pli, t'es grave.
Ouais, mais c'est ça, mais
moi,
ça monte...
Moi, je peux dire que j'ai pas... Moi, j'ai déjà fait mon primaire, puis je me débrouille, mais les dames, j'arrête des fois.
Ouais, ben, tu sais, ton cas est un peu particulier, Émilie, t'as pas eu t'as été moins chanceuse que ben du monde là, pour ce qui est de confort à l'apprentissage, là. On te voit, nous autres, ici, dans le studio, tu sais, t'es dans un fauteuil, t'as des conditions particulières. On peut pas trop t'affliger pour ça. On va changer de sujet pour le dernier, passer au dernier de notre ordre du jour. Et là, Joe va se joindre à la conversation. J'ai une question pour vous deux, là. Qu'est-ce qui se passe avec les signes religieux au sein de Québec solidaire? Ils sont laïcs? Ils sont pro-laïcité? Qu'est-ce qui... Ils sont anti-laïcité? J'ai de la misère à suivre.
Ben, même eux autres, je pense qu'ils savent pas parce qu'ils sont 50-50. Et moi, ce que je déplore, c'est que ils se disent les apôtres de la transparence, puis il faut s'habiller en fonction de notre état d'âme, puis faut pas se laisser, mettre un carcan puis une idéologie vestimentaire, faut qu'on soit comme on est. Puis là, quand ça arrive le temps de débattre sur la laïcité, ben ils ferment les portes puis ils disent aux gens des médias, ben vous allez sortir parce qu'on veut parler en famille. C'est plus de la transparence, là. Il y a un instant, il y a quelque chose qui marche pas. Et moi, c'est ça que je déplore. Qu'on ait des débats, j'ai toujours dit, c'est sain qu'on ait des débats. Puis ça aurait été le fun de voir comment Québec solidaire débat de ce sujet-là. Mais il y avait des gens qui étaient trop gênés, puis ils voulaient pas passer à caméra, puis ils voulaient pas que leur phrase clé soit mal interprétée. Fait qu'ils ont dit non, on va se cacher entre nous. Et ça, c'est démocratiquement, c'est malheureux pour un parti qui aspire aux grands honneurs.
Ben moi, je crois que contrairement à ce que tu avances, mon cher Eric, ça peut être extrêmement sain d'avoir des débats qui sont clos. C'est d'ailleurs pour ça que les votes sont secrets en société. On vote pas à main levée pendant les élections pour laisser la place davantage justement à ce que l'opinion s'exprime d'une façon qui sera pas retenue, qu'on puisse aller au fond des choses. Surtout surtout pour des débats qui sont extrêmement émotifs puis polarisants comme celui de la laïcité et du port des signes religieux. Pour moi, ça c'est pas vraiment une problématique. Ce que je trouve une problématique, c'est que le Québec solidaire a eu tant de difficultés à camper là-dessus parce que ça reste un parti qui Même si elle a des valeurs qui sont quand même libérales, veut quand même prôner l'esprit d'équipe. Là. On est
du
groupe, etc. Et puis avec c'est très ambigu au niveau de la laïcité et du port des signes religieux parce que c'est un peu l'individu qu'on met à l'avant, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce que toute la société pense de la religion, ce qui compte c'est ce que l'individu. Ah toi tu crois au Père Noël? Bon ben fermez-vous toute la trappe, le Père Noël existe, tu comprends? Alors que si on dit ben écoutez ensemble on veut être un groupe, on veut avoir une certaine cohésion, on veut avoir un certain ciment qui nous tient ensemble, ben à un moment donné, il faut être capable de mettre de côté un peu la liberté individuelle des gens pour aller de l'avant. Puis c'est ça que je trouve super intéressant dans ce débat-là, plutôt que l'histoire de la transparence. Anyway, une fois qu'ils vont sortir de ce débat-là, ils vont dire à tout le monde c'est quoi leur position, puis à partir de ce moment-là, tout le monde va être au courant. Donc pour moi, ça, c'est pas la problématique, c'est plus...
Penses-tu vraiment que Manon va être capable de se décider au bout de la ligne?
Je sais pas.
Capable d'être ambivalent.
Ouais, quand même.
Fait que c'est peut-être son idée aussi, le débat à huis clos. Éric, oui?
Ouais, ben, tu sais, on regarde, par exemple, le Parti québécois qui ont souvent eu des débats houleux, mais ils n'ont pas eu peur de le faire en public, puis ils se sont pas gênés, puis quand c'était le temps de lever les cartons, les gens levaient les cartons, parce que de toute façon, il y a beaucoup de... Quelqu'un qui a assisté, par exemple, à une assemblée partisane comme ça, un congrès ou un conseil général, les votes se font à main levée. T'as des cartons de couleur, puis tu lèves ta main, puis le monde voit qu'est-ce que tu votes. Là.
Oui, 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 mais c'est, mais les médias sont pas en place quand c'est à huis clos. Puis moi, ouais, je pense que c'est une question, c'est un peu la fierté qui vient affronter l'efficacité. Moi, je crois personnellement.
Là, ils vont-tu faire ça à chaque enjeu ou quoi là?
Non, non, je crois. Oui. Mais là, il y en avait un en fin de semaine, justement, sur la position environnementale du parti. C'était médiatisé, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Okay. C'est un vote qui était... Parce que on devait commencer le débat sur la laïcité, et puis on a poussé un vote pour être en mesure de le débattre sous couvert un peu, là, de le faire un peu dans l'anonymat.
En fait, je pense que ça a mis le doigt là, sur pourquoi ce huis clos, c'est que on est dans nos contradictions. On est collectiviste, mais là on veut être individualiste.
Ben oui.
C'est ça.
Parce que il y a une pression pour l'ouverture. Le dogme de gauche est dans ce sens-là que tout ce qui est immigrant est meilleur que ce qui est natif. C'est pas des jokes, ça. Il y a vraiment une trame de ce côté-là.
Ouais, mais pourtant, c'est ultra paradoxal parce que la gauche, fondamentalement, mise sur le groupe. Et puis là, ce qu'on dit, c'est que, ça serait les individus qui seraient le plus important. Et puis moi, la position actuellement officiel de QS, c'est-à-dire que on se base sur les résultats et les conclusions de la commission Bouchard-Taylor. Donc on mise davantage sur l'interculturalisme, c'est-à-dire OK, oui, on veut pas vous empêcher d'avoir vos religions, mais les personnes qui sont en position de pouvoir vont devoir éviter de porter leurs signes religieux au travail.
C'est cohérent avec Québec solidaire.
Exactement, mais là il y a des gens à l'interne du parti qui veulent pousser finalement un libéralisme qui normalement est le dada des partis droite, là, c'est l'individuel avant de tout, puis si c'est toi qui mérites tout, puis toutes les autres crèvent autour de toi, rien n'affiche, c'est la compétition, en bout de ligne, c'est payant pour tout le monde, etc., etc., là.
Ouais, mais moi, la grande question, puis c'est vrai ce que tu dis, puis ça m'amène à ce que la grande question de ce débat-là au sein de Québec solidaire, c'est comment favoriser le désir d'inclusion et la défense des valeurs communes. C'est tout là qui est le choc des idées, là, parce que tu peux pas tirer dans les deux sens. À un moment donné, si tu veux être clair puis rallier autour de toi, t'as pas le choix dans un dossier comme ça, dans un sujet comme ça, un thème comme ça, t'as pas le choix de polariser puis de dire voici où on campe nous. Et là, Québec solidaire, c'est pour ça qu'ils se cachent, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont divisés sur la question, puis ils veulent pas justement inquiéter la population. Ils veulent garder une image d'unité.
Ouais.
Mais moi je crois qu'ils dégagent une image qui est très démocratique, c'est-à-dire que il y a des tensions, tu sais, c'est qui le chef, c'est, tu sais, ça a fait partie un peu de leur lot. On le sait qu'ils ont des fonctionnements qui existe à Québec solidaire qui est différent de ce qu'on retrouve dans les autres partis politiques actuellement. Donc je te dis pas que ça leur fait pas de tort, mais je pense pas que c'est tant ça le cheval de bataille là, de puis l'argument qui se trouve derrière cette espèce de huis clos-là, moi, je crois que c'est quelque chose qui est très paradoxal à l'intérieur du mouvement actuellement et qui doit être nécessairement débattu. Mais pour moi, ça fait pas nécessairement de discordance que ça soit fait à huis clos.
J'aimerais ça voir la face à Manon à se parler à elle-même. Moi, mais ça, c'est ça.
Ouais.
Petite mentaire pour l'Assemblée nationale. Mais ben oui, mais le monde a le droit de s'habiller comme ils veulent, mais habillez-vous pas en denis.
OK. Idéalement, on est d'accord avec ça, Émilie.
Oui, exact.
Mot de la fin, Éric.
Oui, ben si Françoise David avait été là, je crois pas qu'il y aurait eu un huis clos. Je pense que c'est depuis que Vincent Marissal est là, sur le plan médiatique, ils sont beaucoup plus stratégiques, sont beaucoup plus fins, sont beaucoup plus rusés. Et là, on voit que lui, dans les coulisses, puis il tire les ficelles pour tout ce qui est l'image. Ça se sent, ça se voit, c'est très clair.
C'est très clair que c'est notre dernière fois ensemble cette année. On se retrouve l'année prochaine. Éric Lantier, merci. Bonne année, bon temps des fêtes.
Ben vous autres aussi, et puis j'espère que vous allez vous amuser, puis j'ai bien hâte à ces journées de repos, ça fait toujours du bien.
Ah, moi donc, ben d'accord avec ça, on a de la petite corvée là, mais après ça, maintenant, on va s'arrêter un petit peu. Merci, on se retrouve l'année prochaine, grand plaisir, comme d'habitude, et j'ai hâte de remettre ça en 2019.
Merci, au revoir.
Merci, Éric Lantier. Mesdames, messieurs, parlant de temps des fêtes, je fais une plug sur le party de Noël.